Montpellier. Un jour de semaine comme tous les autres. Les rues sont pleines de gens qui vont et viennent. Sur une place, j'observe leurs pas qui se croisent, se mélangent et repartent dans toutes les directions. Chacun trace sa route, mais laquelle? Je regarde leur visage et j'essaie de deviner le chemin de leur vie.
La mamie, elle se presse de rentrer chez elle, elle a froid, ça se voit sur sa tête.
Hein. Lui, par exemple, il est pressé.
Elle a fait les courses.
Ils sont bien habillés, ils
la
vont
dame
travailler,
qui passe avec ses courriers.
Eux.
À mon avis, la pauvre, ça fait 20 ans qu'elle est en France, on lui donne toujours pas ses papiers, voilà. Donc elle descend de la préfecture.
Sur les gens de la rue.
Ah, la dame là-bas, elle a des jumeaux.
Ils ont l'air complètement défaits, quoi. Ils sont blancs comme des cachets d'aspirine, les yeux défoncés.
C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui font des bisous aux enfants. C'est beau.
Ils vont où? Nulle part. Je crois que leur chemin, il est tout tracé.
Comme
quoi.
On dit chez moi, Soukanango Bololo. Toute vie commence toujours comme un bonbon à la fraise. Et dès que tu commences à grandir un peu, ça commence à devenir un bonbon à l'aspirine.
Moi, j'aimerais que ma vie soit comme une cassette, qu'on puisse rembobiner, surtout comme quand j'avais 10 ans. Au Zaïre, j'habitais chez mes grands-parents, avec tous les enfants de la famille. On était 35. Une vie incroyable. Entre nous, jamais d'histoire. On était très solidaires. Et dès qu'on avait fini de faire des corvées, ma grand-mère nous fabriquait des poupées avec le morceau de tissu. On faisait que jouer toute la journée. Et puis un jour, il y a mon père qui est réapparu. Pour la première fois, on allait passer les fêtes chez lui, avec ma petite sœur, mon petit frère. Il avait vraiment tout organisé. Faux papiers, billets d'avion, mais pas pour faire la fête. Mon père, il m'a confondu avec ma mère. Il nous a amenés en France. C'était parti. La police, famille d'accueil, juge, accident, tentative de suicide. Mais maintenant, je m'en sors pas. Mes grands-parents, c'est sûr, ils imaginaient un autre destin. Ils me gardaient pour un grand mariage. Au lieu de tout ça, je suis déracinée. J'ai toujours pas de papier et je peux même pas retourner dans mon pays. De toute façon, je crois que j'ai même pas envie d'y retourner. Vraiment, quand j'y pense, si je pouvais réenregistrer ma vie, j'aurais voulu rester toute petite.
À 17 ans, j'ai dû faire un choix. Partir. Faire ma vie ailleurs. Pouvoir vivre mon homosexualité librement, sans suivre le chemin que mes parents avaient décidé pour moi. Hétéro, deux enfants, une maison, voilà. J'ai pris Dossac, direction Nice. Premier amour, première claque. J'ai repris mes sacs, direction Lyon. Deuxième amour, deuxième claque. L'amour, ça a toujours été le moteur de ma vie. Il guide mes pas. C'est comme une drogue, à la fois merveilleux et douloureux. C'est ainsi que ma vie fonctionne. Je m'en plains pas, je l'accepte. Dans chaque chemin où on décide de s'engager, il y a toujours des obstacles, des doutes, des regrets. Depuis mon départ, la relation avec mes parents s'est améliorée. C'est pour ça que je me dis après tout, partir était sûrement la meilleure solution. Aujourd'hui, je pose mes sacs ici, sur Montpellier, à la recherche d'un autre amour. Si je devais prendre une photo du chemin que j'ai parcouru, ce serait une route qui ne finit jamais.
Une piste dans le désert.
Un chemin tortueux et rempli de vipères.
Un sentier qui longe la mer jusqu'au phare. 18 ans, c'est la majorité. L'âge où on peut prendre ses décisions tout seul. Moi, à 18 ans, j'étais déjà indépendant. Mais il me manquait quelque chose. Connaître mon père. J'ai jamais vécu avec lui. J'étais dans une famille d'accueil. Depuis mon enfance, tous les mercredis, j'allais voir une assistante sociale. C'était obligatoire. À chaque fois, je réclamais mon père. Je voulais le voir. On me disait toujours la même chose. Tu le verras quand tu auras 18 ans. En l'attendant, je revivais toujours cette scène. Je me vois dans un café avec ma famille d'accueil assis à une table. Un grand monsieur s'approche de nous et ma mère de cœur me dit « Voilà ton père ». Je me vois assis sur ses genoux, il me tient dans ses bras. Je ne me souviens pas de son visage, il y a un voile dessus. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression d'en avoir rien à faire de lui, comme si c'était un étranger. En attendant, j'avais commencé à me construire une vie. Je travaillais dans la haute couture, je gagnais énormément d'argent, je m'achetais tout ce qui me plaisait, c'était le paradis. À 18 ans, l'heure était venue de voir enfin mon père. Mais l'assistante sociale m'a dit qu'elle ne savait rien de lui, à part son nom et son prénom. Ça m'a révolté, c'était une promesse importante pour moi. Tout s'est écroulé autour de moi, comme si c'était la fin du monde. J'ai repris mon travail comme si de rien n'était. Mais ma tête n'était pas là. Peu de temps après, je me suis fait renvoyer. Plus de travail, plus de voiture, plus de mobilier. Je suis reparti dans ma famille d'accueil pour retomber sur mes pattes. J'ai repris des études, réussi à me reconstruire. Mais tout ça, c'est fragile. Régulièrement, tout s'écroule à nouveau. La même histoire, le même souvenir d'un père sans visage.
On me dit toujours de tourner la page. C'est pas parce que tu as tourné la page que tu fermes le bouquin.
On est à Saint-Éloi. Donc Saint-Éloi, on va s'arrêter à Boutonnet, au stade des Philippides, place Albert Ier et descendre à Louis Blanc. Bon, on va là-bas pour interviewer Marianne, apparemment c'est une jeune chanteuse.
Elle a tout abandonné pour aller chanter dans la rue, elle a gagné sa vie pendant un moment en faisant la manche. Après maintenant, elle fait de la chanson et elle fait de la trompette avec sa bouche.
J'ai eu un vrai appel de la rue. Fallait que j'aille dans la rue, fallait que j'aille chanter dans la rue. Personne ne me connaissait, donc pour moi c'était l'occasion, quoi. Et en fait, ça s'est fait. Je marchais dans la rue et je croise un guitariste hollandais qui chantait un blues. Et puis il y avait une acoustique extraordinaire dans cette rue. Là. C'était une des. Je crois que c'était la rue de l'Argenterie à Montpellier. Et je lui ai dit, tu peux chanter avec toi un truc, tout ça. Et il m'a dit, oui. Puis j'ai commencé, puis les gens se sont arrêtés, ça s'est super bien passé. Et il m'a dit, bah, écoute, on se donne rendez-vous demain et tout, viens avec ta guitare. Et donc je suis venue avec ma guitare, et il n'est pas venu. Et je me suis retrouvée toute seule avec ma guitare dans la rue, et là je me suis dit, bon ben bah, ok, j'y vais quoi. Je m'en fous, personne ne me connaît, et j'ai fermé les yeux et j'ai envoyé quoi. Et puis j'ai gagné plein de sous, donc je ne m'y attendais pas. Et donc je me suis dit, bah, je vais retourner demain. J'ai gagné un peu moins de sous le lendemain et j'en ai gagné encore plus le troisième jour. Et donc voilà, j'ai commencé vraiment à y prendre vraiment goût. Et puis un an après, il y a eu une rupture dans ma famille. Il y a eu un gros événement. Toutes les fondations de ma vie se sont écroulées, quoi. Toute ma vie s'est écroulée, ma famille a explosé. On est 7 enfants, donc c'est une grosse famille, quoi. Je me suis retrouvée vraiment toute seule. Là, le besoin de chanter s'est ressenti, mais là, il a fallu vraiment, vraiment... Et je suis passée à une étape supérieure, quoi. J'ai commencé vraiment à chanter avec mon ventre, quoi. Et vraiment à donner tout ce que je pouvais donner, comme si ça allait être la dernière fois, quoi. Je fumais beaucoup de pétards à l'époque, énormément, toute la journée, tous les jours. Il fallait que je fuis le plus possible, quoi. Et j'allais chanter, je fumais. Et puis mes parents m'ont dit, bon, si t'arrêtes tes études et que tu te lances dans la musique, ben débrouille-toi, quoi. Donc j'ai eu une période de plusieurs mois où là, il a fallu vraiment que je joue pour gagner ma vie en jouant dans la rue. Et j'ai eu la chance de... On a fait un concert sur une guinguette qui s'appelait le Mayflower à l'époque à Frontignan. Et le patron a vraiment craqué sur moi, il m'a dit « Mais tu viens chanter tout l'été, tu fais la première partie des groupes, quoi, et je te déclare. » Et de là, ben voilà, ça s'est enchaîné pour moi, où j'ai continué pendant 6 ans, j'ai joué dans la rue, mais j'ai plus eu besoin d'y aller pour en vivre. Par contre, j'avais vraiment besoin d'y aller pour... j'ai pas galéré financièrement, mais dans ma tête énormément. Il fallait que je chante, que je chante, que je chante. Et en plus, j'avais la chance de faire du bien aux gens.
Quand j'étais petit, je ne manquais de rien. Je claquais des doigts et j'avais. En grandissant, je me suis rendu compte qu'on m'achetait. L'horreur. Je fonctionnais comme quand tu mets une pièce pour faire avancer la machine. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert le milieu de la nuit. C'était comme si je sortais de mon cocon pour découvrir le monde. Mais j'étais toujours chez moi, car c'est la famille qui tenait la boutique. Au début, ça m'a fasciné, ça m'a même fait pousser des ailes aux chevilles. Les gens faisaient la queue, payaient, et moi je passais librement. J'ai commencé même à prendre goût à ce petit privilège. À cette époque, étant toujours naïf, je voyais encore la vie en rose. Mais plus j'y passais mes nuits en y réfléchissant, plus j'ai découvert que tout le monde jouait, mentait, faisait des sourires pour me courtiser. On s'intéressait à moi parce que j'étais de la maison. On m'a trahi une fois, deux fois, trois fois. Alors, de fil en aiguille, j'ai décidé que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que plus rien de tout ça ne m'atteindrait, que ce ne serait qu'un film et que moi, je serais spectateur. Le monde du jour, finalement, est aussi hypocrite que celui de la nuit. Alors, de jour comme de nuit, je vis avec les autres sans vivre avec eux.
En fait, si on est venu vous interroger aujourd'hui, c'est parce que le sujet du reportage, c'est sur les différents chemins de vie que les personnes parcourent. Est-ce que vous pensez que jusqu'à maintenant, dans votre chemin de vie, donc, vous avez choisi ce qui vous est arrivé ou ça a été imposé quelquefois ?
Chemin de vie, c'est la vie, hein. Donc il y a des choses que j'ai choisies, il y a des choses que j'ai construites à la sueur de mon être, quoi. Il y a des choses qui m'ont été imposées, il y a des choses qui tombent de je ne sais où, qui arrivent de je ne sais où. Voilà, il y a tout ça, quoi. C'est un peu de tout ça, quoi.
Et est-ce que vous aimeriez changer des choses que vous avez faites avant ?
Alors, certainement pas. Par contre, j'aimerais changer et construire consciemment ce vers quoi je vais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais non, je veux rien changer, parce que, voilà, c'est là, quoi. Aujourd'hui, je suis heureuse, donc je veux rien changer, même si ça a été difficile par moments. Je veux rien changer.
Si on vous demandait, votre du moins depuis le départ jusqu'à maintenant, si vous aviez un mot ou une phrase pour définir votre parcours.
Réconciliation.
Pourquoi ce mot ?
Parce que c'est vraiment ce pourquoi je me suis le plus battue et pourquoi je me bats encore et où j'ai des résultats concrets. J'ai été vraiment en conflit avec la vie, en conflit avec mon corps, en conflit avec la vie. Aujourd'hui, je me suis débarrassée de tout ça. Je me suis réconciliée vraiment avec la vie, quoi. Et ça a beaucoup évolué, quoi. La réconciliation. Yalai, 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 yalai.
Quand je chante, je me sens libre, comme si plus rien n'avait d'importance. J'oublie tous mes soucis, je suis heureux. Si on m'enlevait le chant, ce serait me voler une part de moi-même. Pour moi, le chant, c'est un antidépresseur, sauf que là, il n'y a pas d'effet secondaire. J'aimerais devenir un grand chanteur, voyager, chanter dans les plus grands opéras du monde. En tout cas, je ferai tout pour y arriver.
Dans la vie, normalement, on doit choisir son chemin. Parce qu'on vit qu'une fois. Et des fois, on n'a pas trop le choix parce qu'on est jeune. Et c'est les parents qui choisissent à notre place. J'avais une belle vie au Maroc. J'étais à l'école avec des amis. Du jour au lendemain, mon père m'a dit on va en France. Il a parlé à mon prof. Mon prof a dit c'est bon. Et le lendemain, mes bagages étaient déjà prêts. Arrivé à Montpellier, mon père est parti en Corse. Je me suis retrouvé tout seul chez mon frère. Lui non plus voulait pas s'occuper de moi. Il m'a même pas envoyé à l'école. J'ai pété les plombs. Je suis parti de chez mon frère. J'avais pas de papier pour trouver du travail, pour s'en sortir. Et surtout, j'avais la rage contre ma famille. Et puis quand j'ai eu mes papiers, j'ai pris la décision de trouver du travail. J'ai l'impression de rattraper le retard. J'ai fait une formation, je reprends le goût à la vie. Mes parents, ils m'ont imposé des choix. Et maintenant, c'est mon tour. La vie, ça se travaille. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, quand on veut, on arrive toujours à avoir quelque chose. Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie maintenant? Je demande pas plus. Avoir mes enfants qui porteraient mon nom. Et je profiterai de mes enfants comme j'ai pas profité de mes parents.
Donc il me faut deux numéros. Qui commence ça?
Alors moi, le 57.
Non, ça va de 1 à 42.
Le 5.
Le 5.
Et l'autre hein?
21.
5.
Moi, je vais jouer le 24.
Et, 24.
Et le 9.
Et le 9.
Moi, je vais dire le 36. Et le 25. Et on coche la case mercredi ou samedi pour un seul tirage. Voilà. Qui c'est qui donne les sous?
Tiens, 1 euro combien?
1 euro 20.
Non, voilà.
C'est bon. Ça va? On est milliardaire?
Moi, si je gagne l'auto, je partirai très loin. Acheter un grand château où je ferai un opéra dedans, mais que pour moi. Voilà.
Si je gagne l'auto? Oh, moi je construis ma maison, je m'achète une entreprise où j'ai ce patron, j'ai le cul posé sur un fauteuil et après j'investis et la vie continue quoi.
La première chose que je ferai, je quitte la France. Avec cet argent, je pense que je donnerai de l'argent à ma grand-mère s'il a encore envie pour qu'elle puisse avoir une maison avec plus que 35 petits-enfants. Donc, j'ouvrirai des foyers en Afrique, mais pas que dans mon pays natal. Il n'y a qu'avec l'argent qu'on peut faire ça. Oui, ça changera ma vie. Oui.
Je vois une maison moderne, contemporaine, sur plusieurs niveaux, sans porte. Juste les cloisons indispensables. D'un coup d'œil, on voit du bureau jusqu'au salon, de la chambre à la cuisine. Je suis sûr que j'arriverai à la bâtir, cette maison. Solide. Massive, imposante. Pour moi, c'est une question de sécurité. Et puis, elle n'aurait pas de porte. Rien qui puisse me claquer au nez ou m'empêcher de regarder devant.
C'est pas encore la fin du chemin. C'est seulement la fin de l'émission. Pour la réaliser, il y avait Karim, Thierry, Mouloud, Nicolas et moi, Martha. Les chemins, il y en a plein. Maintenant, on se donne le choix. Devant nous, il y a l'avenir. Et nous, on a décidé d'y arriver. Allez, ciao, on vous laisse. On a encore de la route à faire.
Warrior, deny. sangye deni nibana yarabi kana ken kunya daraminye yarabi kana ken kunya daraminye kanga kenyo gofe e dunya daraminye e kanga kenyo gofe e dunya daraminye. Kenyo gofe, edun nyadara minye.